Bonjour à tous, bonjour Ingrid, bonjour Nathalie et bienvenue à ce webinaire consacré à la médiation au travail.
Si vous avez des questions durant ce webinaire, n'hésitez pas à nous faire signe, à lever la main, nous interpeller pour participer à la discussion, qu'on puisse échanger et répondre en direct à vos questions. Si vous préférez, vous pouvez également poser vos questions via le chat. Nous sommes là, voilà, pour vous aujourd'hui et pour qu'on échange ensemble. J'ai repris donc des questions que certains d'entre vous nous avaient envoyées au travers du questionnaire qu'on vous a fait parvenir sur le sujet il y a maintenant quelques semaines. Je vais donc poser ces questions à la fois à Ingrid et Nathalie, toutes deux médiatrices certifiées et qui conduisent régulièrement des médiations au sein du cabinet Epistem. La première question que j'ai envie de poser à Nathalie, c'est qu'est-ce que la médiation? Pouvez-vous nous éclairer sur ce dispositif, son intérêt au sein de l'entreprise?
Alors, la médiation, c'est un dispositif de résolution de conflits qui est utilisé dans les organisations, alors aussi bien les entreprises privées que les établissements publics, les collectivités, les hôpitaux, lorsque des tensions apparaissent entre deux collaborateurs. Alors, ça peut être entre deux collègues, ça peut être entre un collègue et un manager ou entre deux managers. Et là, on va parler de médiation interpersonnelle. Et dans certains cas, les tensions vont apparaître plutôt au sein d'une équipe, d'un collectif, alors qui est parfois un gros collectif, puisqu'il nous est arrivé avec Ingrid de faire des médiations dans des collectifs de 30 voire 50 personnes. Et là, on parle de médiation collective. Voilà, il s'agit dans certains cas de personnes qui refusent de travailler ensemble. Les relations sont tellement dégradées qu'il n'y a plus de relation et la médiation va être là pour renouer la relation. Et dans d'autres cas, les relations sont devenues tendues. Il y a des tensions, on arrive encore à travailler ensemble et on nous sollicite à ce moment-là. C'est vrai que de plus en plus, quand on est sollicité pour les médiations, on a l'impression d'être un peu à un point de non-retour, tellement les relations sont dégradées. Voilà ce que je peux vous dire.
D'accord, je vous remercie. Ingrid, je partage une autre question avec vous que nous ont posé les participants. Qu'est-ce qui fait finalement que ces personnes elles vont pouvoir se reparler ou travailler ensemble à nouveau grâce à la médiation?
Alors, écoutez, oui, effectivement, on a retenu cette question qu'on trouvait pertinente. Je dirais que plutôt que d'arriver à se reparler, la médiation va surtout permettre aux gens de s'écouter. En fait, la médiation est un process qui va permettre aux gens, ce qui est difficile à faire dans la vraie vie quand on est en situation de tension avec un collègue, avec son manager ou autre. C'est compliqué réellement de se parler en tout cas jusqu'au bout, parce qu'on a tendance à projeter sur l'autre déjà la suite qu'on a imaginée. On va évidemment être tenté de lui couper la parole, voire de fuir la conversation et du coup de ne pas permettre l'échange. La médiation permet, en tout cas par le cadre qu'on amène, c'est-à-dire que nous en tant que médiateurs, on est garant d'un certain nombre de règles. On lit un certain nombre de règles avec les médias qu'ils sont censés accepter, signer. Et en fait, dans ces règles, il y a bien le respect de l'autre et l'obligation, je dirais presque, de s'écouter, de ne pas s'interrompre. Et en fait, par le respect de ces règles, les gens vont être du coup obligés d'écouter l'autre, comme peut-être il a été rarement, en fait, dans la réalité possible de le faire, pour diverses raisons. Et en fait, on va, bon, alors pour ce faire, on a tout un tas d'outils, de jeux de cartes projectifs, par exemple, etc., pour pouvoir exprimer son point de vue en dépersonnalisant un petit peu aussi les échanges, en tout cas au démarrage. Et c'est bien, en tout cas, ce process et cette possibilité de s'écouter qui va permettre aux gens, peut-être, en tout cas, je ne dis pas que c'est le cas à tous les coups, mais peut-être d'avoir un autre point de vue, un autre regard sur ce que ressent l'autre, sur ce qu'il a à dire, parce que bien souvent, on n'a pas forcément le bon regard, en tout cas complètement objectif sur les ressentis de chacun. Ça permet aussi peut-être de voir la souffrance ou la peine occasionnée de ces situations de tension, parce qu'on a tous des façons différentes aussi de manifester son désaccord. On peut le faire sous forme de la tristesse, on peut le faire aussi sous forme de l'agressivité, et on sait bien que l'agressivité est une réaction au stress, mais qui est parfois difficile à comprendre. Donc la médiation permet en tout cas aux gens, je dirais, de s'écouter. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va offrir par le processus de médiation. Mais ce qui permet aussi, surtout, c'est que cette médiation va proposer aux personnes de mettre en lumière et de mettre en perspective les points d'accord, mais surtout de désaccord. En tout cas, je pense que Nathalie décrira tout à l'heure les étapes de la médiation, mais dans une des étapes, il s'agit bien de se mettre au moins d'accord sur les désaccords, je dirais. C'est un petit peu sur ça qu'on travaille en médiation.
Merci Ingrid. Et du coup, vous indiquez que la médiation consiste à mettre en évidence ces désaccords. Mais pour cela, il n'y a pas besoin forcément de médiation. En général, les personnes les connaissent déjà, non? Qu'en pensez-vous, Nathalie?
Alors, c'est vrai que parfois, on connaît les problématiques ou on en a une vague idée. Mais dans un certain nombre de cas, on a l'impression vraiment que le conflit est un conflit de personnes et on ne sait plus quelles sont les problématiques qui sont en jeu. Donc, on a tendance à dire, ben, un tel ne s'entend plus avec telle personne, aidez-nous parce que c'est lourd de conséquences. Donc, l'objectif de la médiation, dans un premier temps, en tous les cas, ça va être de faire émerger les problématiques, ce qui pose problème, et donc de mettre en évidence les désaccords, de mettre en évidence l'ensemble des problématiques. Ça peut être des conditions de travail, ça peut être une compréhension du rôle, ça peut être des problématiques de territoire. Souvent, en médiation, on travaille beaucoup sur la notion de territoire. Et puis aussi des choses qui vont relever de la personnalité, des modalités de communication, etc. Donc la médiation a vraiment pour objectif de faire émerger toutes ces problématiques, de les mettre en discussion pour ensuite, dans un deuxième temps, réfléchir aux solutions qu'on va proposer, qui vont émerger de la médiation, puisqu'une des spécificités de la médiation, c'est vraiment qu'on co-construit les solutions avec les médiés. Le médiateur n'est pas ni un coach, ni un conseil, il est là pour faire mettre en évidence les problématiques, ce qui pose question, ce qui pose problème, et ensuite de travailler avec les médiés sur la recherche de solutions.
Et est-ce que la médiation, elle marche à 100%? Et si tel n'est pas le cas, pourquoi?
Alors, oui, on aimerait bien, nous aussi, que la médiation marche dans tous les cas, bon, ce qui n'est pas la réalité. On a profité de ce séminaire pour justement faire le point avec Nathalie sur les résultats des médiations que nous avons pu réaliser l'une l'autre au sein du cabinet depuis quelques années, pour celles d'ailleurs dont on a les résultats, parce que faut savoir aussi que c'est pas toujours évident pour nous, même si on propose au démarrage de la mission des points, des suivis post-médiation, donc à 3-6 mois de manière générale. Il s'avère que, bah, effectivement, ces points se font, des fois ne se font pas pour diverses raisons, hein, liées aussi à la vie de l'entreprise, et on n'a pas toujours finalement une vision, nous, à long terme. Donc, en tout cas, de ce qu'on a, pour être honnête, hein, de ce qu'on en connaît, on va dire qu'on a deux tiers des médiations qui, au moins, aboutissent à certains résultats. Alors après, c'est aussi qu'on s'entende sur c'est quoi une médiation réussie. On n'a pas tous la même notion de ce qu'est la réussite de la médiation. La réussite de la médiation, ça peut être de terminer par une séparation, par exemple. Alors une séparation, ça ne veut pas forcément dire une séparation quitter l'entreprise, même si ça peut. Ça peut être aussi une séparation des protagonistes qui sont concernés par la médiation. En tout cas, ce sont des solutions qui soient satisfaisantes pour l'ensemble des parties. C'est là-dessus qu'on est d'accord. Donc certes, ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi ? Parce que certains conflits ont des bénéfices secondaires et peuvent être justement aussi une façon pour certains de cacher un peu les difficultés, hein, d'être un écran de fumée sur d'autres problématiques, alors qui peuvent être là aussi diverses. Les problématiques, ça peut être des problématiques de compétences, par exemple, ça peut être des besoins d'arbitrage par la direction, par exemple, parce que pas envie forcément de changer et d'évoluer, et dont on sent bien que la médiation va demander des efforts et qu'on n'en a pas forcément envie. Donc c'est vrai que la médiation, il ne faut pas oublier que les conflits, pardon, ont bien un intérêt souvent, hein, pour les protagonistes. Donc, est-ce qu'ils sont volontaires à chaque fois? Pas forcément. On reparlera sur la notion d'être volontaire, mais en tout cas, est-ce que ça marche dans tous les coups? Je dirais qu'en tout cas, pour les deux tiers dont on parlait qui aboutissent à des relations apaisées, ce qui est difficile, c'est qu'elles le soient dans la durée. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que la médiation demande quand même beaucoup d'efforts. On sent bien que les médiés sont souvent assez épuisés par le processus, par l'exercice, que les efforts, parce que c'est Nathalie qui vous parlera de la durée aussi, qui est importante dans la médiation, de pas tergiverser et de faire perdurer des choses sur des semaines, des mois, de profiter des bénéfices de la dynamique de la médiation, pour que justement on remette les personnes dans cet effort d'écoute, dans cet effort de se mettre à la place de l'autre, dans la recherche de solutions. Et je dirais que dans ces deux tiers-là, ça peut tenir sur quelques semaines. Et ce qui est difficile, c'est de tenir encore une fois dans le temps. Pour ça, je dirais que si ça n'appartient qu'aux médiés, ça peut être compliqué. Je m'explique, c'est-à-dire que pour nous, en tout cas, on s'est rendu compte que l'organisation, mais aussi l'encadrement et les différents acteurs autour des médias ont aussi une carte à jouer pour que cet apaisement se maintienne, parce qu'on sait bien que le naturel reprend et que si finalement était au cœur des sujets, par exemple les périmètres de poste, comme ça arrive quand même de temps en temps, ou la mauvaise définition des fonctions, etc., si effectivement il n'y a pas de vigilance aussi de l'encadrement sur ces problématiques et qu'on laisse les médias se débrouiller avec leurs propres efforts, on risque effectivement d'en perdre de bénéfices dans les semaines qui suivent. Donc l'organisation peut aussi accompagner ces collectifs dont les médias font partie, à comment se parler, comment se dire les choses. On a le droit de ne pas être d'accord, d'ailleurs, en entreprise. On l'a dit, le conflit, elle peut avoir des intérêts. Le tout, c'est de savoir exprimer, sortir de ces conflits et puis surtout d'en sortir et d'en retirer des bénéfices. Donc voilà, tout le monde, je dirais, a sa part à jouer dans la résolution des conflits, les médias, mais pas que.
Pour compléter ce que vient de dire Ingrid, les cas d'échecs de médiation qu'on peut avoir, puisqu'on en a, on en a de temps en temps. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un échec de médiation, mais en tous les cas, quand on n'arrive pas à restaurer une relation de qualité entre des médiés, on s'aperçoit que c'est souvent une problématique de territoire avec des enjeux de pouvoir qui sont forts et peut-être un management qui, pour différentes raisons, n'a pas envie de trancher, n'a pas envie de s'immiscer dans les tensions, et ce qui peut favoriser un terreau de conflits un peu permanent, un peu larvé, qui profite, on ne sait pas toujours à qui, mais en tous les cas, qui perdure, parce qu'il est quelque part autorisé dans l'organisation. Il y a des bénéfices, ce qu'on parle de bénéfices secondaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans des organisations où le management, par exemple, ne veut pas trancher parce que les deux collaborateurs impliqués, par exemple, sont de très bons éléments. Et on se dit, si on tranche, on risque d'en perdre un, etc. Voilà. Donc, on peut avoir ce type de problématique aussi en médiation.
Merci à toutes les deux pour ces réponses. On a une question via le chat que je vais vous poser. Madame Fortum demande qui peut faire appel à un médiateur, le salarié ou les salariés concernés, ou par exemple les RH ou éventuellement un membre du CSE.
Alors, je veux bien répondre parce que ça correspond un peu à une des questions qu'on s'était posées. Le commanditaire, en général, qui fait appel à nous, c'est souvent la DRH. Ou la direction. Est-ce qu'on a des sollicitations en direct par les personnes au cœur du conflit? Dans les entreprises, c'est plutôt via la DRH. Ingrid, tu confirmes ça?
Tout à fait. En tout cas, nous, c'est bien effectivement. Ce sont les commanditaires qui sollicitent Épistème font partie globalement de la direction pour des raisons un peu évidentes et qui est le cas d'ailleurs dans plein d'autres dispositifs autour de la prévention des RPS. Mais néanmoins, par contre, la demande à l'intérieur de l'entreprise peut venir du salarié, peut venir d'un membre du CSE. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs, c'est la médiation peut être tout à fait plus ou moins connu d'ailleurs d'une direction, mais néanmoins un process connu par les membres de CSE par exemple, ou par les salariés qui peuvent du coup en échanger ensemble et demander à la direction que justement elle fasse la démarche de trouver un cabinet et des médiateurs. Mais bien évidemment, ça a déjà été le cas d'ailleurs que ça vienne des salariés ou de représentants du personnel qui disent « Ah ben tiens, là ce serait intéressant dans telle ou telle situation de faire appel à une médiation » et donc sont passés évidemment par la direction pour faire la commande entre guillemets et du coup après on réceptionne cette commande, mais ça peut venir de toute personne qui estime avoir besoin peut-être de ce process à un moment donné.
Une autre question, Nathalie, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment se passe une médiation et nous préciser quelles en sont les différentes étapes?
Oui, bien sûr. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle la séance de cadrage avec la direction ou la DRH. Alors, la séance de cadrage, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où la DRH ou la direction va nous expliquer, va nous donner des éléments de contexte, d'environnement, va nous faire part de l'historique, depuis quand les personnes travaillent ensemble, quels ont été les événements, est-ce qu'il y a eu des échanges de courriers, est-ce qu'il y a eu des rendez-vous, juste par rapport à la question qui a été posée sur l'intervention de la DRH, qu'est-ce qui a été déjà fait dans l'entreprise? Parce que souvent, on nous sollicite suite à différentes actions qui ont été menées par les managers ou la RH. Elle a essayé de mettre autour de la table les personnes et les choses n'ont pas avancé ou ont avancé à un moment donné, mais n'ont pas été durables. Et elle va donc, lors de cette séance de cadrage, nous expliquer pourquoi elle fait appel à nous et ce qu'elle attend de la médiation. Souvent, quand on nous sollicite, il y a des choses qui ont été faites. Les directions sont intervenues, les managers sont intervenus et pourtant la situation perdure. Voilà. Donc, on a cette première séance de cadrage. Ensuite, on a des entretiens préparatoires avec les médias. Qu'est-ce que c'est les entretiens préparatoires? Ce sont des entretiens qui peuvent être différents suivant les médiations parce que dans certains entretiens, le médier va commencer vraiment à raconter toute son histoire, tout ce qui lui pose problème et on va peut-être passer 2 heures avec le médier en entretien préparatoire. Donc, il va nous raconter son ressenti, nous raconter sa perception. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir un entretien préparatoire avec chaque personne et nous, on va déjà mesurer les gaps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir un médié qui va nous dire pique-pendre de son collègue, par exemple. Et quand on va rencontrer le collègue, on va rencontrer une personne que nous, on va trouver absolument charmante, complètement différente de ce qui a été décrit par la personne. Donc ça va être déjà intéressant pour nous de mesurer les perceptions respectives. Et l'entretien préparatoire, il a un autre objectif, c'est qu'on va expliquer à la personne ce qu'est la médiation. Parce que souvent, on envoie des collègues ou des collaborateurs en médiation, mais ils savent pas du tout comment ça va se passer. Donc, ils sont un peu inquiets, ils se posent des questions, ils se demandent qui on est, nous, le médiateur, qu'est-ce qu'on vient faire là et en quoi on est, entre guillemets, légitime pour régler un conflit qu'ils ont peut-être depuis des mois entre eux. Voilà.
Voire des années.
Voire des années. Donc, cet entretien préparatoire, c'est vraiment l'occasion de créer un lien avec les médias, de créer de la confiance pour qu'ils osent nous raconter leurs problèmes et puis de leur expliquer tout le dispositif de la médiation en leur parlant notamment de la confidentialité des entretiens, de la confidentialité de ce qu'ils nous confient à nous, puisque ce qui est dit dans l'entretien préparatoire n'est répété nulle part ailleurs. Donc ça, première étape, entretien préparatoire. Ensuite, on va avoir les séances de médiation. Donc, les séances de médiation, en général, on en a 2, parfois 3. Mais l'idée, c'est en médiation d'être efficace et rapide. On n'est pas dans un coaching, donc on fait 2 séances. Parfois, on a besoin d'une troisième, notamment lorsqu'on est sur des gros collectifs. Première séance de médiation, on vide son sac, on exprime les problématiques qu'on ressent. On exprime son ressenti, on est vraiment sur l'émotion, ce qui pose problème, et on se met à ce moment-là, en fin de séance, d'accord sur les problématiques qu'on va travailler, sur les désaccords, on va mettre en évidence les désaccords, et on va souvent arrêter la première séance à ce moment-là. Ensuite, ça, c'est très, je dirais, moi, c'est très personnel parce que tout le monde ne le fait pas. Moi, entre les deux séances ou les trois séances de médiation, je fais systématiquement des entretiens avec chacun des médiés pour débriefer avec eux la séance de médiation, pour leur dire ce que j'ai pensé d'eux dans cette séance, comment ils ont réagi, qu'est-ce que ça a impacté en termes d'action. Et donc, on échange sur la première séance, leur vécu, etc., etc. Et c'est très important parce que souvent, ça permet aussi aux médiés de comprendre qu'on est déjà en chemin. On a déjà commencé à avancer dans la compréhension des choses. Ensuite, on a une deuxième séance qui est souvent la recherche de solutions, une co-construction des solutions avec chaque médié. Et on a parfois une troisième séance lorsque nécessaire pour approfondir les solutions et pour rédiger un accord de médiation lorsqu'on est arrivé à une solution. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui est très ramassé dans le temps, hein. En général, c'est un mois et demi, une médiation. Alors, dans les médiations judiciaires, c'est encore plus bref, puisque quand moi, ça m'est déjà arrivé de faire des médiations judiciaires, on a une journée pour tout faire. Le juge dit, en une journée, vous faites les entretiens préparatoires et vous faites la médiation. Vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas. En entreprise, on est plus confortable et c'est vraiment important de profiter de cette respiration qu'on a en entreprise pour permettre aux médiés de réfléchir, de se poser, d'exprimer leurs ressentis. Voilà. Mais quand même, on n'est pas dans du coaching et la dynamique de la médiation est très importante. Le rythme de la médiation, c'est aussi ça qui va enclencher la recherche de solutions.
Merci Nathalie. On parle souvent de confidentialité en médiation. Qu'est-ce que ça signifie, Ingrid? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point?
Sur la notion de confidentialité, oui. Alors, c'est vrai qu'on nous interpelle souvent sur cette notion de confidentialité. Qu'est-ce qui est confidentiel? Eh bien, comme le disait déjà Nathalie, c'est bien les entretiens préparatoires qui sont, eux, confidentiels, puisque voilà, ce qui est dit lors de ces entretiens, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir rentrer ou non, puisque c'est quand même aussi une étape ou au cours de laquelle on valide que la médiation répond bien et on valide aussi que les personnes du coup sont prêtes et en mesure du coup de pouvoir réaliser ces médiations. Ça peut arriver aussi qu'à la fin d'ailleurs des entretiens préparatoires, pour compléter ce que disait Nathalie avant, on décide que la médiation n'est pas le dispositif adapté pour x, y raison, parce que à l'issue de ces entretiens, on a vu que les personnes ne remplissaient pas, je dirais, les conditions pour que la médiation réussisse. Donc, les entretiens individuels, eux, sont, en tout cas les échanges, sont tout à fait confidentiels. Idem sur ce qui se dit pendant les séances de médiation, qu'a bien décrit Nathalie. En revanche, ce qui ne sera pas confidentiel, c'est bien les solutions qui ont été co-construites et pensées par les médiés hein, au cours de la médiation et leurs engagements respectifs. C'est-à-dire que ceci donne lieu à un accord de médiation, c'est-à-dire que l'idéal, ça ne veut pas dire que ça se fait à chaque fois, mais quand même dans la plupart des cas, la deuxième et dernière, hein, en tout cas la dernière séance de médiation, est bien aussi le moment où on fait rédiger, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut se dire, etc. Mais alors on ne les grave pas dans le marbre, c'est un peu compliqué, mais en tout cas on les met sur papier, c'est-à-dire qu'on oblige ou on invite plutôt les médiés à pouvoir écrire, à formaliser de manière concrète, les solutions qu'ils ont trouvées, qui soient satisfaisantes pour l'un et l'autre ou les uns les autres, et puis de décrire les engagements respectifs. Comme dans tout process, hein, d'ailleurs, les engagements, ça s'écrit parce que c'est des choses sur lesquelles on peut revenir aussi si besoin, plusieurs semaines après. Cet accord de médiation, il est effectivement rédigé par les parties et c'est ce qui est public. En tout cas, ça leur appartient, mais c'est un document qui est tout à fait, en tout cas, donnable aux commanditaires. Hein. Ils sont censés pouvoir avoir accès à cet accord de médiation qui lui sera donc communiqué. Ce qui arrive aussi, qu'on communique, c'est une note de synthèse, c'est-à-dire que effectivement, l'accord de médiation appartient aux médiés. Bien souvent, ils le diffusent eux-mêmes, mais nous, en tout cas, on fait aussi régulièrement une note de synthèse dans laquelle nous écrivons un petit peu le résumé des étapes, c'est-à-dire de manière factuelle, on décrit quelles ont été les étapes et puis on reprend en tout cas la synthèse aussi des solutions et des engagements respectifs. Donc voilà, en tout cas, nous, ce qu'on communique, c'est bien l'accord de médiation que soit les médias ont rédigé, soit qu'on a aidé à rédiger, et qui, voilà, ce document leur appartient, mais il est communicable, ils le font régulièrement, et nous transmettons une note de synthèse où on décrit de manière très factuelle, on n'est pas là pour donner nos sentiments sur ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé, là aussi ça reste en médiation, mais par contre, de manière factuelle, on décrit les différentes étapes et les engagements qui ont été pris de part et d'autre. Voilà, en tout cas, ce que nous communiquons.
Alors, je vois qu'il y a une question qui est en rapport avec mon intervention précédente sur quel délai entre entretien préparatoire et première séance. Alors, le délai, il est très court, c'est-à-dire que en général, on fait les entretiens préparatoires. Par exemple, si on les fait aujourd'hui, on va faire la séance la semaine prochaine. C'est vraiment, on essaye d'enclencher la dynamique pour planifier les entretiens préparatoires et le démarrage de la médiation dans la foulée. Après, on s'adapte aussi aux agendas des personnes. Hein. Parfois, on a des agendas qui sont très compliqués dans les entreprises. Et du coup, voilà, on s'adapte. Hein. Mais dans l'idéal, c'est ça. On fait les entretiens préparatoires et la séance de médiation très rapidement la semaine suivante. Ça nous est déjà arrivé de faire, par exemple, les entretiens aussi pour des histoires d'organisation. Entretiens préparatoires, par exemple, aujourd'hui, et demain, séance de médiation. Notamment quand on est dans des grosses médiations collectives, où là, il faut, pour des raisons de déplacement, être particulièrement efficace.
Merci Nathalie. Je vous adresse une question, Nathalie. Quel est l'intérêt d'avoir recours à un médiateur externe? Et du coup, je rebondis aussi sur la question qu'on nous a posée tout à l'heure.
Tout à fait, qui est là. Que pensez-vous du fait d'avoir des médiateurs en interne? Alors, l'intérêt du médiateur externe, il est à plusieurs niveaux. Le médiateur externe, il est neutre et impartial, c'est-à-dire que on n'a pas d'historique avec les médias. Ça me paraît quand même un élément très important. On ne les connaît pas, on ne les rencontre pas tous les jours à la cafétéria, on ne travaille pas avec eux sur des dossiers, et cette extériorité, elle est quand même très importante pour nous permettre de leur renvoyer des choses dans leur mode de fonctionnement, et elle garantit notre neutralité. On n'a pas d'histoire avec eux, on n'a pas d'intérêt. Un médiateur interne, moi je vois un intérêt au médiateur interne, c'est que le médiateur interne, il peut permettre quand même de dénouer des situations de tension pour éviter qu'on fasse appel à une médiation externe qu'on sollicite souvent quand la situation est très dégradée. Donc, des organisations qui auraient des médiateurs internes, pour moi, ça serait les mobiliser quand, en effet, le management repère des conflits et des tensions et qu'on intervient avant que la situation soit trop dégradée. Donc, je vois aussi cet intérêt aux médiateurs internes. Pour moi, ça ne serait pas tout à fait le même rôle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ingrid.
Alors, je sais qu'il y a certaines entreprises ou, on va dire, institutions qui ont mis en place des réseaux de médiateurs internes. Je trouvais ça assez intéressant, ou justement, de pouvoir faire appel à ces médiateurs internes, mais externes au site ou au service concerné, en tout cas, par les problématiques. C'est-à-dire que ce qui serait effectivement plutôt défavorable pour tout le monde, d'ailleurs, c'est que les médiateurs soient soit connus, soit assez proches, comme le disait Nathalie, où on a pu travailler ou se croiser, etc., dans l'entreprise. Là, ça pose question, même si en soi, d'ailleurs, leur intégrité n'est pas du tout à remettre en question. Mais en tout cas, vis-à-vis des médias, ça peut entraîner des biais. Par contre, là où c'est intéressant, c'est quand on crée ce type de réseau et que du coup, on fait appel. On est, par exemple, voilà, une entreprise avec différents sites, par exemple, et on fait appel à un médiateur d'un autre site, etc., où là, pour le coup, s'ils ont suivi voilà, toutes les formations qu'il faut, etc., il y a aussi un intérêt parce qu'ils connaissent aussi les process de l'entreprise. Il y a des choses, voilà. Après, je dirais que notre valeur ajoutée peut être d'ailleurs de ne pas connaître les process de l'entreprise pour diverses raisons, parce que parfois on va, en tout cas peut-être les aider à pointer des dysfonctionnements qui sont peut-être à force d'être des fonctionnements internes ne plus être perçus comme des fois complètement déconnants, voire défaillants, etc. Mais si les sujets ne se trouvent pas là et ailleurs, il peut y avoir aussi voilà, un avantage à connaître l'entreprise. Je dirais que les deux ont leur intérêt.
Et leur complémentarité.
Et leur complémentarité, tout à fait.
C'est un peu comme dans les entreprises, la notion de coach interne et avoir recours à des coachs externes. Ça a un intérêt, ça a aussi ses limites. Et peut-être qu'il faut que les bédiers aient le choix aussi, dans certains cas, ça peut être intéressant, pourquoi pas.
Oui, parce que nous, on voit bien quand on parle d'externalité, de neutralité, d'impartialité, etc., enfin bref, le béaba des médiateurs, on se rend compte quand même que malgré tout, c'est pas si systématique que ça, c'est-à-dire que pour nous, on se décrit neutre et impartial très bien, sauf que c'est pas de fait d'emblée évident pour les médias qui sont dans une période de tension, dans une période parfois de souffrance, qui sont forcément plutôt suspicieux quand même, parfois quant à la démarche, et que de fait, on a beau arriver en disant nous sommes neutres, on est impartial, etc., on a à montrer quand même dans le processus tout au long, en tout cas, de cette démarche que nous accordons autant de crédit aux uns et aux autres, autant de valeur à la parole de chacun, de faire attention à ce principe d'égalité, en tout cas à l'intérieur d'une séance de médiation.
Merci à toutes les deux. Tout à l'heure, Ingrid, vous évoquiez l'importance d'être volontaire pour entrer dans un process de médiation. Comment ça se passe si jamais les parties ne sont pas volontaires, justement ?
Ah oui, comme on se disait souvent avec Nathalie, c'est que, alors oui, il y a des personnes qui sont volontaires parce que, encore une fois, la médiation vient parfois d'eux, hein, en demande, de dire à un moment donné, on supporte plus de ne plus fonctionner avec son collègue ou son responsable, etc. Et les parties sont en demande, mais parfois ne le sont pas. Et je dirais, souvent ne le sont pas. La notion de volontariat, elle est quand même pas si évidente que ça. Pourquoi ? Parce que bien souvent, ils n'y croient pas, que quand on est en conflit avec quelqu'un, on a tendance à, de fait, pas avoir du tout envie de se retrouver avec cette personne et discuter, ou alors ne pas en avoir l'énergie. Là, récemment, on a proposé à deux personnes en situation de tension dont on pressentait que la médiation était possible, l'une des deux personnes a répondu qu'elle était dans une période personnelle qui était déstabilisante, en tout cas qui ne lui permettait pas d'avoir l'énergie pour rentrer en médiation. Auquel cas, c'est tout. À un moment donné, il faut écouter. Par contre, ce qu'on veut dire, c'est que ne pas se braquer à ce non-volontariat par méconnaissance, parfois aussi, de ce qu'est la médiation. Je pense que, à minima, de les recevoir ou de proposer, en tout cas, que les personnes fassent l'entretien préparatoire, ne serait-ce que par rapport à ce que disait Nathalie, que ces entretiens préparatoires sont en tout cas en bonne partie l'idée d'échanger, d'expliquer ce qu'est la médiation, ce que peut apporter. Nous, on est là pour montrer l'intérêt. Quel est leur intérêt à entrer en médiation ? On leur explique que c'est un processus difficile, etc. Mais on leur montre l'intérêt in fine de sortie de crise. C'est-à-dire que c'est ça l'objectif, c'est d'aider chacun à sortir de cette situation critique avec des conséquences parfois importantes hein, sur les uns et sur les autres. Donc, si les parties ne sont pas volontaires, malgré ces étapes de préparation, etc., à un moment donné, il faut savoir aussi objecter que c'est pas toujours possible. Maintenant, cette notion de volontariat, on est quand même en entreprise, on a quand même un contrat de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout rejeter sous prétexte qu'on a des difficultés avec l'un ou avec l'autre. On est dans une entreprise pour travailler ensemble. Et donc, comme l'idée, c'est de trouver des solutions, quelque part, de refuser la médiation, c'est déjà de dire, moi, ça ne m'intéresse pas de trouver des solutions. Or, Quand on est en entreprise, il y a quand même une logique à essayer de trouver des solutions. Bon, après, selon les cas, bien évidemment, il est possible que nous-mêmes, on se rend compte que la médiation n'est pas possible. Mais comme l'a dit aussi Nathalie, en médiation judiciaire, donc Nathalie a fait, et ce qui n'est pas mon cas, le juge peut ordonner des médiations. Et après, si les gens ne sont pas là, il y a des dispositions qui se prennent, et tant pis pour les gens qui ne sont pas là. Donc, à un moment donné, on ne va pas dire que la médiation est obligatoire, mais au moins de le proposer comme un processus de sortie de crise et que les personnes, d'inviter le plus possible les personnes à au moins aller jusqu'à l'écoute de ce que peut apporter ce dispositif.
Merci. Une dernière question maintenant que plusieurs participants nous ont posée. Quel est le coût d'une médiation ?
Alors, du coup, on a envie de vous dire ça dépend, etc. Hein, évidemment, on a rarement envie de répondre à cette question sûre, puisque ça dépend déjà, est-ce qu'il s'agit d'une médiation individuelle, enfin interindividuelle ou une médiation collective, ça dépend du nombre de séances. Je dirais pour autant que une médiation interpersonnelle, pour prendre un exemple, va prendre en moyenne 2 jours et demi. Voilà, deux jours et demi quand on compte les étapes de cadrage, enfin qu'a décrit Nathalie tout à l'heure, hein, que je ne vais pas réexpliquer, mais quand on compte l'ensemble de ces étapes, comprenant 2 séances de médiation par exemple, de bout en bout, une médiation interindividuelle peut prendre jusqu'à 2 jours et demi. Donc ça vous donne une idée, hein, si vous travaillez déjà avec des consultants, du coup, de ce que ça peut représenter. Donc certes, c'est un certain coût. Mais nous, on se rend compte par contre du coût de la situation qui peut être enquistée, qui n'est pas du coup les conflits ont bien un coût important dans l'entreprise, des coûts directs et des coûts indirects. Alors au-delà des coûts humains, parce que on peut rencontrer des gens en mal-être, voire en souffrance, et pour qui du coup les dégâts sont relativement importants, hein, qui peuvent aller d'ailleurs aussi jusqu'aux arrêts maladie, peut-être une détérioration aussi sur leur propre santé. Une détérioration et des conséquences sur les relations de travail et donc peut-être aussi sur la performance. Enfin, quelque part, les conséquences d'une situation dégradée entre deux personnes ou entre des groupes de personnes en entreprise, c'est quand même quelque chose de très coûteux sur tous les tableaux, si je puis dire. Et donc le coût d'une médiation à côté de ça, sachant que évidemment, nous, on va toujours vous dire qu'il y a des bénéfices, c'est-à-dire que même les médiations qui n'ont pas abouti à une relation apaisée, on estime qu'à un moment donné, il y a peut-être quand même un bout de chemin qui a pu être fait. Parce qu'on est, réaliste, hein, tout ne finit pas très bien, mais pour autant, en tout cas, ça peut permettre de travailler ou prendre d'autres types de dispositions. En tout cas, les conséquences d'un conflit qu'on laisse se dégrader peuvent être quand même importantes également.
Alors moi, je vois qu'il y a une question très intéressante sur « Constatez-vous une augmentation des conflits et donc des demandes de médiation ?» Et pour répondre à la première question, « Constatez-vous une augmentation des conflits ?» Moi, j'ai envie de dire clairement, il y a énormément de tensions et de conflits dans les entreprises et les organisations aujourd'hui. Le bémol, au lieu du donc, le donc ne me paraît pas forcément approprié parce que oui, on a des demandes de médiation, mais on peut constater aussi qu'il y a beaucoup de conflits qui s'enlisent, qui aboutissent à des accusations de harcèlement par les personnes qui sont au cœur des conflits, parce que justement, on n'a pas identifié le conflit ou on ne l'a pas traité suffisamment en amont. Et au lieu de proposer une médiation qui aurait été sans doute l'occasion de dénouer les tensions et de trouver des solutions, on a laissé s'enquister la situation et une des personnes ne voit pas d'autre solution que de brandir la menace « mon chef, mon collègue me harcèle ». Et là, on bascule à ce moment-là dans les enquêtes pour harcèlement, qui se finissent souvent par le fait qu'on dit bah non, finalement, c'est pas du harcèlement, c'est une situation de tension qui n'a pas été gérée. Donc, oui, des situations de conflit, des situations de tension, parce qu'il y a énormément de réorganisations, de modifications de territoire qui génèrent de la souffrance chez les collaborateurs et du mal-être et des tensions qui monte en escalade, on va dire, et penser à déclencher une médiation rapidement pour qu'on puisse réapaiser la situation et en sortir avant que une des parties sorte les menaces et ensuite la situation échappe un peu à tout le monde et on rentre dans un processus d'enquête où derrière c'est bien plus compliqué pour renouer les relations. Mais on en fait, oui, on en a fait beaucoup de médiations cette année, mais pas à la hauteur des tensions qu'on a repérées dans les entreprises.
Tout à fait. Alors, je vois une autre question. En cas de médiation collective, procédez-vous à des entretiens individuels et préparatoires? Alors, on procède à des entretiens préparatoires, oui, en cas de médiation collective. Par contre, ces entretiens peuvent être aussi collectifs. C'est-à-dire, ça peut être des entretiens de préparation collective. Si je pense à la médiation dont parlait Nathalie au début, qu'on a faite où ils étaient entre 30 et 50, je ne sais plus trop, eh bien, là, vous imaginez bien que nous n'avons pas fait 30 entretiens individuels, surtout que ça n'avait pas d'intérêt, puisqu'on était bien sur des logiques de problématiques, d'ailleurs, collectives. De groupes de personnes vis-à-vis d'autres groupes de personnes. Et donc là, l'idée, c'était avec eux d'avoir réalisé, et dans les cas d'autres médiations collectives, on réalise plutôt des entretiens de préparation, là aussi collectifs, parce que ça a du sens de le faire comme ça.
Merci. Alors, Ingrid, merci Nathalie, toutes les deux, pour vos réponses. Alors, si dans les participants, certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à nous reposer des questions via le chat pour échanger avec Ingrid et Nathalie.
Oui, c'est Blandine Fortum. Moi, j'ai une question pour rebondir à ce que vient de dire Nathalie. Elle a l'air de dire que finalement, il y a beaucoup de conflits, mais finalement, on ne déclenche pas autant de médiation qui devrait être le cas. Pourquoi ? Est-ce une question de coût ou est-ce qu'une question de méconnaissance de ce mécanisme de médiation ?
Parce que je pense que d'abord, toutes les situations ne remontent pas au DRH, au RH. Donc, il y a un certain nombre de tensions et de conflits sur lesquels les managers mettent quand même un couvercle. Enfin, moi, c'est le constat que je fais. Et du coup, quand les RH sont informés, la situation est très dégradée. Et puis l'autre, je pense à une situation où je suis en train de faire une enquête actuellement. Clairement, la RH n'a pas eu le temps d'entendre la souffrance de la collaboratrice. Les tensions se sont enquistées avec son manager et elle n'a pas trouvé d'autre solution que de brandir la menace du harcèlement. Et clairement, la RH n'a pas eu le temps, parce qu'elle est elle-même très occupée, d'entendre suffisamment et d'accompagner, d'être en soutien des collaborateurs. Je crois que les RH sont tellement mobilisés sur de multiples sujets aujourd'hui que leur disponibilité pour être en soutien des collaborateurs et des équipes n'est pas toujours très forte, compte tenu de leur charge d'activité. Et ce n'est pas ce qu'on leur demande non plus toujours. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu. Enfin, c'est une des explications. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais je le vois un peu comme ça.
Pour compléter, alors le coup, je n'ai pas le sentiment, c'est peut-être arrivé de temps en temps, hein, que ce soit, mais j'ai pas eu moi, enfin, je sais pas toi Nathalie, le sentiment que c'était ça le frein, hein, quand le besoin est identifié, qu'on envoie voilà le devis de la prestation, c'est rare qu'on nous dise on la fera pas à cause du prix. Enfin, il y a pas, j'ai assez peu connaissance de ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est que parfois les entreprises selon la culture de l'entreprise, selon les personnalités, selon le poids aussi qu'ont les salariés dans l'organisation, il peut y manquer un peu de courage. C'est-à-dire que globalement, pour vous donner un exemple concret, il y a 3 semaines, 1 mois, on nous explique voilà, que par rapport qu'au sein d'un collectif de plusieurs dizaines de personnes, il y a des binômes, en tout cas des tensions au sein des doubles tensions entre les individus, que des médiations seraient certainement pertinentes, mais que voilà, ne voulant pas stigmatiser sur ces personnes, qui d'ailleurs ne montrent pas forcément non plus un, voilà, une appétence dingue pour la médiation, souhaite du coup, vous voyez, prendre un petit cran, voilà, faire un petit zoom arrière en disant, ben voilà, on ne va pas mettre de l'huile sur le feu et on va plutôt, du coup, commanditer un autre dispositif qui est le diagnostic, hein, donc de refaire un diagnostic pour, voilà, essayer de, du coup, de cerner, d'identifier les tensions et du coup de les réguler d'une autre manière. Mais du coup, c'est aussi ça, c'est finalement d'avoir peur parfois de ce que la médiation peut générer, de se dire, voilà, je ne suis pas totalement à l'aise avec le dispositif, par contre, avec les diagnostics, des analyses de situation, enfin, peu importe comment on les appelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, enfin, qu'on fait déjà de nous depuis 15 ans, et qui, du coup, je dirais, sont avec, voilà, un dispositif peut-être avec lequel les managers sont plus à l'aise et qui est peut-être plus facile à faire accepter aussi au collectif. Voilà. Bon, après, c'est récent et c'est qu'un exemple, mais ça peut être en partie des explications.
Une petite question que j'avais posée. Quel est le niveau d'intérêt, enfin, quel est le niveau d'importance du conflit pour recourir à une médiation? Est-ce qu'il faut que ce soit un conflit extrêmement compliqué ou un petit conflit, ou quelle est la nature du conflit qui fait qu'on déclenche une médiation, en fait? Est-ce que c'est juste une engueulade entre collègues, ou est-ce que, je sais pas, il y a un contentieux plus grave? Comment on définit la nature du conflit?
Nous, on est souvent sollicité quand le conflit pose problème à l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a deux collaborateurs qui se parlent de moins en moins, qui devraient travailler ensemble, et le manager a remarqué qu'ils ne travaillaient pas de façon optimale ensemble, soit parce qu'ils ont des tensions, soit parce qu'ils ne se parlent pas suffisamment. Donc ça peut être, il n'y a pourtant pas eu de tension énorme à ce moment-là, mais simplement le fait que les relations ne soient pas bonnes constitue une problématique importante pour l'entreprise. C'est par exemple deux personnes qui sont dans le même bureau, qui doivent travailler ensemble et qui se parlent quasiment pas, qui s'envoient des mails, etc. Et le manager est démuni face à une situation comme ça. Après, on peut avoir dans les équipes, quand on fait des médiations collectives, des choses très dégradées. Je repense à la médiation dont parlait Ingrid tout à l'heure, la grosse médiation qu'on a faite, il y avait des messages anonymes, punaisés au mur, d'insultes, etc. Donc, on a, je dirais que le degré de gravité ou de tension peut être très variable suivant les situations et ne présage pas de la sortie de crise. C'est-à-dire que c'est pas parce que la situation est très tendue, très dégradée, qu'on n'arrivera pas à avoir un résultat positif. Il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau-là. On peut avoir des petits conflits qui perdurent, qui sont un peu larvés et qui peuvent être plus difficiles à régler que lorsque, comme vous dites, il y a des engueulades ou des choses un peu violentes. Ça dépend aussi du style de l'organisation, ce qu'elle autorise, voilà. Et de la volonté des parties, de quel intérêt j'ai. C'est vraiment par rapport au volontariat, quelque chose qui est essentiel. C'est quel intérêt j'ai à titre personnel de trouver des solutions. Est-ce que j'ai envie de ça ou pas? À partir du moment où les médias vont avoir besoin ou envie de sortir du conflit, en général, on sort facilement.
Oui, mais on pourrait même pousser un peu la réflexion plus loin. C'est-à-dire que si les médias ont déjà envie de s'en sortir, votre boulot, il est déjà à demi fait.
Alors parfois, c'est tellement crispé que ouais. C'est pas si simple. Mais bon, c'est plus favorable.
Vous savez, je suis complètement d'accord avec l'aspect aussi culturel. Et on le voit sur d'autres sujets, d'une entreprise à l'autre, d'une culture à l'autre. Une façon de se parler dans telle organisation va paraître anodine, les gens vont s'invectiver, etc. Et puis le lendemain, c'est tout, les choses repartiront, etc. La même chose, ou alors de quelque chose de moindre, voilà, en tout cas sur l'aspect peut-être conflictuel qui paraîtrait moins important dans un autre contexte, va prendre des proportions complètement dingues. Enfin, nous, on a vu effectivement avec Nathalie des choses, voilà, des menaces de mort, des caricatures, etc. Des choses, voilà, qu'on peut qualifier et objectivement là de violent, hein, d'une violence importante. plaintes, qui, vues d'ailleurs par les protagonistes, étaient des façons de se parler, etc., où il a été tout à fait possible de renouer la communication. Ça, dans d'autres univers, on aurait peut-être été déjà à un point de non-retour, quoi. Tout est aussi dans la façon de se parler, sans stigmatiser, et je ne donnerai pas d'exemple d'environnement, parce que chacun, mais selon que vous travaillez à l'hôpital, dans le BTP, milieu bancaire ou je ne sais où, vous allez avoir des façons de se parler, de communiquer et du coup aussi de gérer les conflits qui seront différentes. Et donc, on ne peut pas nous qualifier de petits, de gros conflits. Ou... C'est compliqué parce que chacun le vit intensément. Hein, et nous, d'ailleurs, on n'a pas à penser grand-chose. C'est que quand vous, à un moment donné, vous sentez que les conséquences commencent à être importantes pour les individus. Certes, il y a les conséquences sur l'organisation, c'est vrai, les problématiques que ça peut poser, le fait de ne plus travailler ensemble, etc. Bon, ça, c'est évident, mais quand vous commencez à avoir des gens en mal-être et que si vous réussissez, en tout cas, à en déceler les indicateurs, c'est là qu'il faut commencer, en tout cas, à poser la question. Après, il ne faut pas mettre des médiations à tout va. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs internes, RH ou autres, qui peuvent très bien faire leur boulot. Et en tout cas, c'est de s'intéresser aux indicateurs, de proposer peut-être une facilitation. Si on ne parle pas de médiation, on peut parler de facilitation, de mettre des mots, d'aider. Et c'est déjà c'est d'être à ce stade-là attentif, comme le disait Nathalie, c'est que quand nous, on se récupère les sujets, c'est quand il y a eu, à un moment donné, par manque de temps, enfin pour diverses raisons, la situation qui a pourri, hein, pour dire les choses, et qui, du coup, on est un peu la dernière roue du carrosse. Donc, c'est déjà d'être vigilant et que, voilà, c'est déjà une première attention à porter aux conséquences que le conflit vous paraisse petit ou gros, c'est des conséquences que ça peut avoir sur les individus.
Si ouais. Il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à tous les participants, merci à Ingrid et Nathalie. N'hésitez pas à aller sur notre site web, sur le site d'Epistem, pour visionner différents témoignages de commanditaires et de médias qui ont eu recours à la médiation et donc qui témoignent en vidéo. Merci. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire.